Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Hier, s'est ouverte la session budgétaire du Conseil Général, au lendemain d'une marche républicaine qui a réuni 45 000 personnes à Angers. 45 000 personnes qui, comme partout en France, ont prôné l'unité nationale, une unité qui s'est très vite effritée hier lors de l'ouverture de cette session budgétaire. Stella Dupont, porte-parole de la minorité, a demandé, au vu des événements, à ce que les élus présents se questionnent sur les méthodes adoptées par le département en termes d'aide sociale à l'enfance, de prévention ou encore d'insertion. Mais rien, Christian Gillet a préféré balayer l'intervention d'un « ne tombez pas dans le piège de la récupération politique ». Au lieu de cela, le département, en situation de coma financier, pour reprendre les mots de son président, préfère voter son budget, un budget qui comprend une baisse du budget destiné aux foyers de jeunes travailleurs ou de celui destiné aux éducateurs de rue.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez une interview de Joy Cut. Le groupe italien fait escale au Shabada demain soir pour une totale découverte à 21h et ils sont donc au bout du fil dans une demi-heure. Mais d'abord, et comme chaque mois, nous recevons Angers Mag pour décrypter l'actualité. Et quelle actualité ? Comment traiter les événements de la semaine dernière vus d'Angers ? Quelle mobilisation et quelle suite ?
Votre présence ce soir, à l'appel du Club de la Presse, notre présence, à nous, élus de toute sensibilité politique, elle est là précisément pour rappeler que la démocratie, que la République, que les valeurs de respect, de liberté d'expression, l'emporteront toujours sur la haine, sur la division, sur le rejet de l'autre, sur la peur de l'autre. Tous ensemble, effectivement, nous sommes Charlie. Nous n'avons pas peur.
Le discours de Christophe Béchu lors du rassemblement initié par le Club de la Presse Anjou mercredi dernier, place du ralliement, 6 heures après la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo qui a fait 12 morts. Bonsoir Yves Boiteau.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef d'Angers Mag et vous étiez à ce rassemblement, une place du ralliement bondée en 6 heures, en fait, en l'espace de 6 heures. C'est une situation rare?
Oui, et même en moins que 6 heures, si on considère que l'appel a été lancé dans l'après-midi, donc je sais plus, 2 ou 3 heures après l'attentat, par le Club de la Presse, de façon spontanée. Peut-être que si le Club de la Presse ne l'avait pas fait lui-même, d'autres l'auraient fait. Et c'est vrai que ça a été étonnant, parce que tout s'est passé via les réseaux sociaux. Et on s'est retrouvé place du ralliement, je sais pas, peut-être à 1500, 2000 personnes, un peu plus, qui venaient se greffer, ceux qui n'étaient pas au courant, dans quelque chose qui était extrêmement émouvant parce qu'extrêmement spontané. Voilà, moi j'étais complètement touché par ce rassemblement qui, malgré la situation tragique, faisait du bien, je trouvais.
C'est comment ça, enfin, les événements de vendredi à Vincennes et à... Ah pardon, j'ai oublié le nom de la ville qui a... Dammartin-en-Goële n'avait pas encore eu lieu. C'était les événements de Charlie Hebdo qui ont rassemblé... Tous ces gens à la place du ralliement, c'était quoi les sentiments sur place? Sur quel sentiment s'est basée cette mobilisation? Qu'est-ce qu'on ressentait?
Un choc immense, la stupéfaction. Je pense comme tout le monde l'a ressenti en France, la stupéfaction devant quelque chose qui nous dépassait en termes de sentiments, quoi, qui allait au-delà de ce qu'on pouvait ressentir. Enfin, je sais pas, chacun a senti ça dans sa chair. Moi, j'ai 42 ans, j'ai vécu quelque chose, oui, d'émotionnellement extrêmement fort. Oui, je parle de stupeur, on était un peu tétanisé, un peu dépassé par la réalité, par cette réalité-là qu'on avait du mal à comprendre. Et puis, la presse a réagi parce que, à travers les rédacteurs et dessinateurs de Charlie Hebdo, à travers des visages qui incarnaient quelque chose, ça aurait été des inconnus, je ne sais pas si on aurait réagi de la même manière, j'en suis pas convaincu. Là, c'était Charlie Hebdo, c'était déjà énorme, et en plus, c'était Cabu, c'était Wolinski, c'était Charb, c'était des gens qui nous parlaient, quoi, qui incarnaient la liberté d'expression. Donc, ce qui s'est exprimé, je parle bien de mercredi, spontanément, c'est la stupéfaction de beaucoup, dont ceux qui sont très attachés à la liberté d'expression. dont on pensait que c'était elle principalement qui était visée, et puis quelques jours après, on s'est rendu compte que c'était bien plus que ça qui était visé.
Comment on réagit en tant que journaliste à Angers, je veux dire, dans une rédaction angevine, étant donné que c'est si loin, même si ça touche la liberté d'expression, même si ça touche quelque chose qui appartient aux journalistes aussi?
Je pense que les limites qu'on se donne pour un média local comme le nôtre, Angers Mag, elle saute complètement quoi, à cette occasion-là, parce que la stupeur, elle s'est pas arrêtée aux portes du périphérique de Paris. Elles ont vraiment irrigué, elles ont touché tout le monde en France, et nous à Angers, la stupeur, elle était immense. Moi, je me souviens, je me rendais au déjeuner de presse de présentation du festival Premier Plan. De la même manière qu'on se souvient très bien comment les tours du 11 septembre se sont écroulées, ce que l'on faisait, je me souviens très précisément que je passais la Loire au pont de C en montant sur Angers. J'écoutais France Info, il n'y avait pas encore de morts, il n'y avait que des blessés. Et entre les Ponts de C et Angers, j'ai appris qu'il y avait des morts, que c'était des gens connus. Et on est complètement pétrifiés, quoi. Voilà, il y a une violence de la réalité qui s'impose à vous. Et pour le coup, en tant que journaliste, on se dit, il n'y a pas à y échapper, il faut parler de cette affaire, quoi. Alors on en a parlé parce qu'il y a un rassemblement qui plus est a eu lieu, bien entendu.
Et en ce qui concerne les événements de vendredi, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait en GMAG sur cette prise d'otage à l'hypercacher?
Non, nous on n'a pas relayé le factuel sur ce qui se passait là-bas, aussi bien pour Charlie Hebdo que à Dammartin Goel, ou alors à la prise d'otage du supermarché Cacher. C'était plutôt les répercussions de l'événement ici, comment on les vivait ici. Ça a été ça notre souci, c'est de relier d'abord les manifestations de solidarité et d'expression d'inquiétude, de stupeur. C'était notre rôle. Et puis la question de à qui on donne la parole maintenant, parce qu'on le voit bien depuis deux jours, c'est « et maintenant ?» la question, et bien, elle s'est imposée assez rapidement, quoi. Malgré la stupeur, moi j'ai jamais perdu l'idée qu'il fallait dépasser bien entendu l'émotion, il faut mettre beaucoup de pondération derrière tout ça pour se poser les bonnes questions, y compris à notre niveau en juin.
On s'inquiète de voir les musulmans modérés ne pas réagir, mais c'est parce qu'il n'y a pas de musulmans modérés en France, il n'y a pas de musulmans du tout. Il y a des gens qui sont de culture musulmane, qui respectent le ramadan comme moi je peux faire Noël et bouffer de la dinde chez mes parents, mais ils n'ont pas à s'engager plus que ça contre l'islam radical. En tant que musulmans modérés, puisqu'ils ne sont pas musulmans modérés, ils sont citoyens. Et en tant que citoyens, oui, ils agissent. Ils achètent Charlie Hebdo, ils manifestent à nos côtés, ils votent contre des gros comptes droites, et voilà.
Charb, en 2011, qui explique, après l'attaque dans les locaux de Charlie Hebdo au cocktail Molotov, qu'il en a marre, qu'on s'inquiète de voir les musulmans modérés ne pas réagir. Yves Boiteau, vous êtes posé la question à qui on donne la parole, et vous l'avez donnée à Abdelrahman Azouzi, élu au conseil municipal et musulman. Pourquoi ?
Parce que moi, j'ai ressenti le besoin d'entendre les musulmans d'Angers après les événements, quand bien même j'entends le discours de Charb à l'instant, parce que on a besoin de les entendre. Parce que la question de l'amalgame, c'est pas une fantaisie de l'esprit que d'imaginer que des gens puissent faire l'amalgame, c'est une réalité. Il y a des gens qui vont faire l'amalgame. Il y a certainement Marine Le Pen qui va prendre quelques points de plus aux prochaines élections, et on ne peut pas ne pas s'en soucier. Et s'en soucier, nous, en tant que journalistes, c'était dans une première réaction, précisément en entendant les musulmans, ceux qui font autorité au sein de la communauté musulmane d'Angers, nous dire comment ils ressentaient les événements. Pour tout vous dire, on a eu une difficulté à trouver des musulmans qui font autorité pour nous parler. On n'était pas forcément hyper bien identifiés, on est un jeune média. On a essayé de joindre d'abord l'association des musulmans d'Angers. Pour nous, c'était eux la priorité, parce que eux représentatifs, on n'a pas réussi à les joindre. Et on s'est tourné vers quelqu'un qui est élu de la République, Abdelrahman Azouzi, certes dans la minorité municipale d'Angers, mais qui représente bien une autorité, qui a un discours, qui a du recul. Et je dois dire que je ne regrette pas du tout mon choix, mais alors vraiment pas du tout, parce qu'on a eu affaire à quelqu'un qui... Je ne sais pas si vous avez lu l'interview, mais qui dit des choses extrêmement fortes. Pour prolonger ce que vient de dire Charb, lui, Abdelrahman Azouzi, tout en, bien entendu, en disant y a l'amalgame, on ne peut pas le faire, il dit aussi, et ce aussi est très important, que les musulmans ne doivent pas s'exonérer aussi, quelque part, de réflexion, de remise en question, parce que les deux qui ont agi ont quand même bien agi au nom de l'islam et viennent bien, des musulmans de France. Donc lui, il en était parfaitement conscient, c'était un musulman qui le disait, et je trouve qu'il a raison de le dire. Et deuxièmement, il appelait aussi, il réinterrogeait la question de l'organisation de l'islam en France, mais y compris l'organisation des autorités musulmanes ici à Angers, en disant que quelque part, une forme de désordre qui existe, parce que je pense que c'est une réalité. Il y a un problème d'organisation aussi de l'islam à Angers, avec justement la difficulté de trouver des autorités qui parlent en leur nom. Et bien que c'était pas forcément un facteur facilitateur de paix sociale et de paix avec la société. Alors c'est peut-être pas le moment de l'ouvrir, ce débat-là. C'était peut-être trop tôt. Moi, je regrette pas cette interview. Elle a été énormément consultée, donc on se dit qu'elle a touché des gens. Et je pense que ce débat-là, de toute façon, il ne pourra pas être éludé sur Angers. Il faudra qu'il soit posé.
Revenons sur la marche républicaine de dimanche dernier. Donc 45 000 personnes réunies à Angers. Est-ce que c'est du jamais vu?
Ah bah oui, ah oui.
Vraiment?
Alors on n'est pas allé fouiller dans les annales, mais je suis pas certain que la libération de la ville d'Angers par les Américains en 1944 ait entraîné autant de monde dans les rues. Je le crois pas. Les quelques images d'archives qu'on voit de la libération d'Angers par les Américains, on voit pas une foule monstrueuse comme cela. Il n'y avait pas les moyens de le voir, mais même, de toute façon, et on a eu l'occasion de travailler sur le sujet cet été, puisque c'était le 70e anniversaire de la libération d'Angers, les historiens le disent, il n'y a pas eu des manifestations fantastiques avec des gens qui descendaient, 45 000 personnes dans les rues d'Angers. 45 000 personnes d'ailleurs dans les rues d'Angers en 1944, ça devait être peut-être la moitié de la population de la ville, je ne sais pas. C'est absolument considérable, quoi. C'est tout sauf anodin. Voilà.
Et à part l'affluence, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette marche?
Eh bien, sans faire d'angélisme, la fraternité. Voilà. On parle beaucoup du fronton de la République, la liberté, l'égalité. Moi, mon sentiment, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai des amis qui n'étaient pas chauds pour y aller. Des gens qui disaient, oh là là, cette espèce de façade d'unité, c'est un peu pathétique, c'est ridicule, demain, ça sera fini. Moi, j'entends ça. Même je peux comprendre des gens qui ne veulent pas y aller. Et bien, pour autant, moi, ce que j'ai ressenti intimement, c'est que c'est la fraternité qui a dominé. La fraternité, c'est quoi? C'est ne pas être dupe de nos différences religieuses, philosophiques. Et les gens qui étaient là n'étaient pas dupes. Hein. Il y a des cathos peut-être même assez radicaux qu'on côtoyait d'autres personnes qui ne sont pas du tout du même point de vue, qui étaient dans la rue, mais elles étaient bien unies par une seule et même... Alors, peut-être pas une seule et même motivation. Moi, je veux y voir une seule et même unité derrière la République, la valeur de notre République et notre système démocratique. Et puis d'autres sont venus certainement pour se rassurer, par inquiétude, d'autres par pour défendre vraiment la liberté d'expression, les gens qui vraiment brandissaient les Charlie Hebdo, voilà. Il y avait de tout, mais c'est ce tout-là, moi, qui était vraiment intéressant. Donc ce qui m'a marqué, c'est d'abord ça, c'est une grande fraternité, et puis je pense que les gens étaient encore estomaqués dimanche, voilà.
Angers Mag conclut son article qui est consacré à la manifestation justement de dimanche par « Concevoir la marche d'un jour comme un point de départ et pas une fin en soi ». Comment vous voyez la suite alors? Comment faire?
Il n'y a jamais eu autant besoin de dialogue social. Il va falloir se coltiner à toutes les difficultés qui nourrissent les tensions, les souffrances qui peuvent conduire des gens à de tels actes. Et je ne parle pas que du côté des musulmans. Je pense qu'on voit bien que les choses se tendent dans la société française à plusieurs niveaux. Et il va falloir aller au charbon pour traiter ces choses-là. Voilà, c'est ça. Moi, je pense réellement que ce n'est qu'un début, parce que les problèmes qui ont conduit à ce type d'actes, qui vont continuer à nourrir les tensions, ils vont subsister. Et il va bien falloir... c'est en ça que ce n'est qu'un début. C'est que chacun, je pense, dans la société, chaque acteur, y compris la ville d'Angers, est interrogé dans sa capacité à mieux faire vivre le dialogue social.
On va continuer avec vous, Yves Boiteau, à décrypter l'actualité. Ce sera juste après Skip and Die avec Cosmic Serpents.
You on my back, you won't know the way it's long. The moon will slowly over but surely cross the town. When you're rich, you are hated. When you're poor, you are despised. You're the tears of my earthlings, you're the apples of my eyes. Push off into the river, keep your head above the water. You don't become a cheap balala lounging in the big chair. Lazy lion kills no game. If you don't stand for something, you fall for anything. We fight hard to retain the vision and break scars in the realm of speculation. When fast cars don't equal destination, and perception is a door through the mind to liberation.
There are millions like me. We walk slow, lay low, take it easy. With the eyes we see, interplanetary. And I love you, baby, from the depths of the sea. Seems you just want to see how far back you can push me.
to hiss my sails. Take a trip on any ship, not every anchor will prevail. You my harbor, I'm your dock. I'm limit when wizards high. Lift the harpies, tense our bodies, lift the sirens, who are minds behind. Every lover stands at Madre de la Muerte. Sent to hell and back of Florida, there's so many swerving homes with snakes that won't in God, I wish I feel so worth it. Kids in paradise, that's the moment that you llegaste.
Te lo juro, amor, somos muy quilomberos, vos y yo. Aunque la vida a veces parece muy corta, somos serpientes cósmicas y vamos a descontrolar la eternidad.
There are millions like me, we walk slow, lay low, take it easy. With the eyes we see, interplanetary. Another you, baby, from the depths of the sea. Seems you just want to see how far back you can push me.
I swear, my love, my cells are your cells. We're rascals. And although life might seem short, we're cosmic serpents and we'll run havoc on eternity.
There are millions like me. We walk slow, lay low, take it easy. With the eyes we see, interplanetary. Another you, baby, from the depths of the sea. Seems you just want to see how far back you can push me. Slow, lay low, take it easy. With the eyes we see, interplanetary. Another you, baby, from the depths of the sea. Seems you just want to see how far back you can push me.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Comme tous les mois, nous décryptons l'actualité avec Angers Mag et c'est Yves Boiteau qui s'y colle ce soir. Après avoir longuement parlé de Charlie et des événements de la semaine passée, on va changer un peu de sujet. Hier avait lieu, s'ouvrait la session budgétaire du Conseil Général, pendant laquelle il a été question des événements de la semaine dernière, puisque Stella Dupont, la représentante de la minorité, en tout cas la porte-parole, a proposé un temps d'échange en disant que... Je cite, nos méthodes doivent bien être questionnées, que ce soit dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, de la prévention, de l'insertion. Nous sommes au cœur du sujet. Ce à quoi Christian Gillet a répondu qu'il ne fallait pas faire de récupération politique. Ça devait être chaud hier, non, au Conseil Général, Yves Boiteau ?
Ça a été particulièrement chaud le début. Alors moi, je n'y étais pas, mais Sébastien Rochard, qui a couvert pour nous la session budgétaire, fait de compte-rendu, donc on a échangé là-dessus. Et oui, ça a été très chaud pendant 2 heures, parce que le contexte national était tout chaud, lui aussi, et que débattre de choix budgétaires dans ce contexte-là, des choix budgétaires qui, on va le voir après, notamment sont obligés de faire des économies dans le domaine de l'action sociale. Ça pose question. Faut rappeler que les frères Kouachi, ce sont des enfants, des orphelins. Faut pas l'oublier. C'est ça qui amène l'opposition à poser ça. Ce sont des orphelins qui ont une vie certainement pas simple et que du coup le débat sur c'est au niveau de l'éducation que tout se joue, qu'on entend actuellement. Forcément, il a été mis sur la table à l'heure de faire des choix budgétaires du département, qui, rappelons-le pour vos auditeurs qui ne le savent pas, est maître de l'action sociale sur le territoire. Donc extrêmement chaud, parce que est-ce qu'on peut dialoguer sereinement, c'est ça la question, est-ce qu'on peut dialoguer sereinement au lendemain d'une telle horreur de cette question-là? Sereinement, non, il faut en débattre, mais sereinement, c'était certainement difficile pour les élus. Ouais.
On rappelle qu'il y a un mois, le Conseil Général avait annoncé qu'il réduisait le budget de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de moitié, en passant de 2 millions d'euros à 1 million d'euros début 2015. Finalement, il devait rencontrer les villes Saumur, Cholet, Trélazé et Angers. Et finalement, donc, il réduit que de 500 000 euros, puisqu'il a trouvé ailleurs.
Ouais, alors je crois qu'il faut préciser, Tiffaine, je crois que ces 2 millions-là concernent les actions de l'Association de sauvegarde de l'enfance
Pour les éducateurs.
Pour les éducateurs de rue, parce que c'est une énorme association, la SEA, qui a un budget forcément qui est beaucoup plus important, et on ne touche pas à la protection sociale de l'enfance, qui est aussi la prise en charge des enfants maltraités dès leur plus jeune âge, au village Saint-Exupéry et dans d'autres établissements, etc. Ça touche bien à l'éducation de rue, et effectivement, il y a eu un débat extrêmement chaud avant les vacances là-dessus, les éducateurs de rue disant qu'on était en train de déserter un enjeu qui était extrêmement fort. Il faut nuancer quand même, parce que Christian Gillet a pris cette décision effectivement pour des raisons budgétaires. On ne va pas rappeler, je crois que j'en ai parlé ici, la situation financière du département qui est extrêmement contrainte. Il est obligé de faire des choix. Il a fait ce choix-là difficile, mais pas en disant on ne fait rien à côté, en invitant aussi les collectivités, c'est-à-dire les villes où ce travail d'éducation de rue est mené, à mettre la main quelque part au pot pour l'aider, lui, à mener cette action-là, c'est-à-dire Angers, Cholet, Saumur et Trélazé. En gros, j'enlève 1 million d'euros, aidez-moi à trouver ce 1 million d'euros-là. Angers a d'ores et déjà dit oui, à hauteur de 500 000 euros. Pour retrouver un budget identique, il faudrait donc que Trélazé, Saumur et Cholet acceptent d'abonder à hauteur de 500 000 euros, ce qui n'est pas acté pour le moment. Cholet n'a pas l'air chaud du tout, Trélazé on ne sait pas trop bien, et Saumur non plus. Les choses ne sont pas encore arrêtées. Maintenant, est-ce que pour autant, si on atteint les 2 millions d'euros, ça satisfera les acteurs sociaux concernés? J'en suis pas convaincu.
Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces en termes de budget au Conseil général hier aujourd'hui?
Il est question d'une hausse des impôts d'1,8%, de la taxe foncière également. Alors j'ai pas tous les éléments. Demain, j'invite vos auditeurs à lire Angemag, peut-être dès ce soir ou en tout cas demain matin au plus tard, parce qu'il y aura un nouveau compte-rendu de ce qui a été décidé cet après-midi. Mais il y aura des coupes budgétaires un petit peu partout, des économies, plutôt que de coupes budgétaires, des économies un peu partout. Vous en avez cité une pour les foyers jeunes travailleurs. Il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Et il y aura forcément une augmentation de l'imposition sous une forme ou une autre pour que le département retombe sur ses jambes. Je précise simplement que la seule augmentation des allocations de solidarité que gère le Conseil général pour l'insertion avec le RSA, pour la solidarité avec le handicap, elle a un nom que j'ai plus, évidemment, l'allocation adulte handicapé, et puis l'allocation d'autonomie, l'APA, pour les personnes âgées. La seule augmentation mécanique, elle équivaut à plus de 10 millions d'euros, je crois, cette année. Donc déjà, ils ont ça à absorber dans un contexte qui est contraint. Voilà, c'est toute la difficulté de l'exercice budgétaire.
Passons à un tout autre sujet, si vous le voulez bien. Yves Boiteau, plus léger, rien à voir, effectivement. L'établissement public de coopération culturelle Le Quai a un nouveau directeur. Il s'appelle Frédéric Bélier-Garcia et il était déjà à la tête du NTA, le nouveau théâtre d'Angers. Le NTA qui partage les locaux du Quai avec le CNDC, Centre National de Danse Contemporaine. J'espère qu'on me suit. Donc on résume, Frédéric Bélier-Garcia, directeur du NTA pour encore 1 an et directeur du Quai pour 3 ans. Situation rare, non?
Oui. Oui, c'est pas banal. C'est pas une surprise non plus, parce qu'on l'avait senti venir à partir du moment où il avait posé sa candidature pour ce poste. Hein. Christian Mousseau, qui était directeur du Quai, arrivait au terme de son deuxième mandat. Ce sont des mandats de 3 ans. Et en posant sa candidature, Frédéric Bélier-Garcia ne l'avait pas fait complètement par hasard, parce qu'il avait le soutien du ministère de la Culture. Clairement, il a eu celui de la ville d'Angers. Il y a 3 tutelles au Quai, hein, la ville d'Angers, l'État et puis la région. Et puis la région a fini par s'unir aux 2 autres pour soutenir sa candidature. Donc surprise, et puis pas tant que ça quand on gratte un petit peu et qu'on comprend, toujours dans un contexte d'économie budgétaire, que tous ces gens-là ont peut-être intérêt à mutualiser ou rationaliser, pour employer des termes à la mode, un fonctionnement du Quai qui... quand je vous écoute dire qui l'occupe et qui sont ses colocataires, n'est pas forcément compréhensible pour le grand public, et puis n'est peut-être pas, si on a une logique de chef d'entreprise ou économique, n'est peut-être pas non plus totalement rationnelle, quoi, voilà, une perte d'économie. Donc je pense que, c'est pas que je pense, derrière ça, il y a réellement une volonté d'économie et de pragmatisme dans la gestion du Quai, et de rapprochement, et je pense que le choix de Frédéric Bélier-Garcia l'incarne, de rapprochement entre le Centre Dramatique National et l'organisation juridique du Quai, l'établissement de coopération culturelle qui gère le Quai. Donc il y a 3 colocataires, et 2 d'entre eux, et Alain Fouquet, l'adjoint à la culture, l'a clairement dit, il y a une étude qui est lancée pour les rapprocher, pour voir comment juridiquement ils pourraient être rapprochés.
Ça veut dire qu'on peut s'attendre à une baisse des effectifs, à des licenciements?
Il y a, alors, licenciement, le terme n'est pas utilisé, mais en tout cas, négociation pour des départs ou départ négocié, ça c'est sûr, c'est déjà le cas au cas. Il y a déjà plus de 3 ou 4 personnes à qui on a soumis des départs négociés. Et puis, si les deux établissements fusionnent, c'est une évidence qu'il y aura des économies d'échelle. Peut-être la communication, peut-être la technique, ceci ou cela. On n'en connaît pas encore les détails et les élus ne sont pas très très chauds pour communiquer sur ce point-là pour l'instant, mais c'est évident qu'il y aura des économies.
On a une idée de l'échéance à laquelle on en saura plus ?
Je sais pas, la seule qui me vient à l'esprit, c'est celle de Frédéric Belli Garcia. S'il termine son mandat à la tête du Centre Dramatique National dans un an, il faudra bien trancher cette situation même juridique à lui, de co-direct, enfin de double directeur avant. Je pense que ce sera fait peut-être avant l'été. Ouais.
On passe au numéro spécial d'Angéma, Yves Boiteau, qui est consacré au Festival Premier Plan, le festival qui s'ouvre dans 3 jours, et oui, 27e édition du Festival Premier Plan. Et donc vous consacrez un numéro spécial, comme l'année dernière.
Comme l'année dernière, deuxième, voilà, très très content de rééditer l'opération.
Avec une grande partie du numéro qui est consacrée à l'Europe, d'ailleurs c'est votre une, l'Europe plein champ.
On a pensé à plein de titres, mais voilà.
Et il y a un personnage en particulier, Claude-Éric Poirot, à qui vous consacrez un article, le patron des 400 coups, créateur et délégué général du Festival Premier Plan, également directeur d'Europa Cinéma. Et donc, on va parler un petit peu d'Europa Cinéma. C'est un réseau de 1200 salles dans 69 pays et près de 700 villes. Claude-Éric Poirot explique que plus vous êtes lié à un lieu, plus vous avez besoin de comprendre ce qui se passe ailleurs. C'est une résonance particulière aujourd'hui, d'ailleurs.
Énorme. Mais bien sûr, moi, c'est tout de suite spontanément ce à quoi je pense, quoi. Voilà, c'est la grande qualité de ce festival, c'est son ouverture, quoi. Et dans le contexte actuel, on va se rendre compte un peu plus de la richesse de ce festival qui reste... Moi qui travaille depuis 20 ans en Maine-et-Loire, vraiment méconnue finalement. Elle est reconnue par la profession, mais elle est totalement méconnue dans sa dimension populaire. J'ai envie de dire, je dis ce terme-là, quand bien on va me dire, mais oui, mais on présente des films qui ne le sont pas. Mais oui, mais par contre, en termes de démarche, c'est une vraie dimension sociale derrière ce festival-là.
Et il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de scolaires qui s'y rendent.
Énormément, mais c'est le public principal d'ailleurs de Premier Plan. C'est l'une de ses autres grandes qualités, c'est sa capacité à toucher des publics scolaires ici en Maine-et-Loire, grâce à des partenariats avec l'inspection académique et tout un tas d'établissements, pour décrypter ce que c'est que le cinéma, quoi. Et on a fait le choix, l'an passé, on s'était arrêté sur... alors ça va me revenir, mais c'était une autre thématique. Là, c'est... plutôt en tête ce soir. Mais en tout cas, on a choisi de s'arrêter sur l'ouverture internationale de Premier Plan, mais parce que c'est vraiment aussi ce qui fait son identité. On a affaire à un vrai festival européen. Quand on parle d'Europe, on n'en parle pas toujours dans des termes qui sont positifs, quoi.
Non, c'est plutôt rébarbatif.
Rébarbatif, parfois repoussant. Au niveau de l'économie, on va dire qu'il n'y a pas d'harmonisation. Derrière Premier Plan, il y a la réalité d'une organisation du cinéma européen qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui existe, qui est extrêmement forte. Et si on a choisi de parler d'Europa Cinéma, l'organisation dont Claude-Éric Poirot... Et c'est pas un hasard tout ça d'ailleurs, et le délégué lui aussi, le délégué général, c'est bien qu'elle a fait un travail monstrueux pour permettre à ce cinéma européen créé en Europe, produit en Europe, d'être diffusé dans des salles qui le présentent.
On peut dire qu'Angers est précurseur sur le thème de l'Europe cinématographique.
Sur ce point de vue-là, c'est une évidence parce que le festival, c'est une des rares vitrines aussi abouties de ce cinéma européen, avec cette autre particularité, Premier Plan, qu'elle est dédiée aux premières œuvres, premières et deuxièmes œuvres de cinéastes. Je pense que c'est un atout de la ville qui n'est contesté par personne, qui a été soutenu de nouveau sans aucune ambiguïté par la nouvelle municipalité, Christophe Béchu, en disant que s'il y avait quelque chose qu'on lui avait pas demandé de revoir au cours de sa campagne, c'était le festival Premier Plan. Pour moi, c'est le premier événement culturel majeur de la ville, ça le reste, oui.
Et donc, je reviens sur le numéro. On parlait d'Europe. Vous êtes aussi allé voir du côté de la Chine, puisque depuis 2009, je crois, le festival Premier Plan est jumelé avec un festival de premier film en Chine. Et on apprend dans l'article de ce numéro spécial qu'en Chine, les Chinois cinéphiles n'ont accès qu'à 34 films étrangers en salle chaque année. Résultat, le cinéma français, pour eux, c'est Amélie Poulain, Le Jeu d'enfant, Intouchable et Taxi. C'est un peu désolant.
C'est hallucinant. Ça veut dire qu'on part de très très loin. Et ça veut dire que les gens de premier plan ont certainement raison d'aller travailler ce qui peut être travaillé là-bas. Je sais que cette ouverture-là, elle est contestée, y compris par certains des créateurs de ce festival. Il n'y avait pas que Claude-Éric Poirot, en disant qu'on n'est déjà plus dans l'Europe, quoi. Donc c'est une question qui doit certainement se poser dans la tête des créateurs du festival. Maintenant, pourra-t-on faire sans la Chine demain? Est-ce que les cinémas chinois ne seront pas un lieu de diffusion important pour le cinéma européen? Ben voilà, le débat est ouvert. Moi, je pense que c'est une bonne ouverture. Elle est modeste, hein. Pour l'instant, c'est pas celle qui est mise en avant. Le festival ne perd pas son identité, mais ça fait partie de son ouverture. Au demeurant, c'est pas la seule. Il y a le cinéma algérien qui est mis en avant aussi lors de cette édition. Pour premier plan, le cinéma turc a toujours fait partie de l'Europe, alors que la Turquie n'est pas dans les limites de l'Europe. On s'amuse d'ailleurs en travaillant sur ce dossier. On s'est rendu compte que les grands prix du jury avaient été principalement... Il y en avait six. Le pays qui est sur le podium, c'est la Russie. Et le deuxième, c'est la Turquie. C'est quand même formidable, comme quoi il y a un esprit d'ouverture à premier plan qui est extrêmement fort. Si vous permettez, Tiffaine, j'ai retrouvé le thème du dossier qu'on avait...
Je vous en prie.
Je me récupère, qu'on avait traité l'an passé lors de Versailles. C'était sur les actions éducatives, justement, de premier plan sur l'éducation au cinéma. Ça m'est revenu entre-temps, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème. Un mot pour nous dire où est-ce qu'on peut retrouver le numéro pendant le festival?
Alors, on peut d'ores et déjà le retrouver dans tous les points de diffusion habituels d'Angemax, c'est-à-dire tous les parkings de la ville, une bonne partie des commerces, pas tous, mais on aimerait bien qu'on ait plus. Alors, ceci étant, il y en a plus, parce que grâce à un partenariat avec Premier Plan, on a pu s'appuyer sur un distributeur, un diffuseur qui travaille avec Premier Plan et qui a complété notre réseau. Donc, en fait, on doit être, à mon avis, à 500 points de distribution. On doit couvrir vraiment la ville d'Angers et puis l'agglo. Et puis, évidemment, au centre des congrès, on le trouvera sans aucun souci durant le festival. Dans les cinémas de la ville aussi, d'ores et déjà. Et puis, on va le mettre en ligne également sur ce qui n'a pas encore été fait. Et on va le mettre en ligne avec un feuilleteur sur notre site internet dans les heures qui vont suivre. Voilà.
Et je vous invite vraiment à le consulter parce qu'il est très, très riche, ce numéro.
Merci.
Avec une interview de Bertrand Blier. Il y a également un article qui m'a beaucoup plu, mais on ne peut pas en parler. On n'a pas toute la soirée ici, malheureusement, sur un sujet sur le sous-titrage de films qui est assez étonnant.
Oui.
Et donc, voilà, j'invite les auditeurs à feuilleter Angemag, à le lire de A à Z. Quelle couverture du festival pour Angemag?
Elle sera modeste parce que... Enfin, elle sera modeste. On va faire ce qu'on va pouvoir, voilà. Je rappelle qu'on est une équipe artisanale. On va rentrer dans une période de bouclage du numéro de février qui ne nous permet pas d'être présents comme on le souhaiterait sur ce festival. On est premiers à souffrir parce qu'on adore ce festival. On peut assister à rien du tout. C'est quand même terrible. Donc, on fera appel à la classe option cinéma du lycée Renoir avec laquelle on travaille déjà, qui nous propose des critiques de films qui sortent en salle tous les mercredis régulièrement. Ils seront présents sur le festival, donc on va travailler avec eux. On va travailler avec des collaborateurs pigistes qui suivent le cinéma, et on l'espère avec des blogueurs que Premier Plan a associé cette année, des blogueurs spécialisés dans le cinéma. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, je croise les doigts, suivre la compétition des longs métrages, ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis qu'on a créé le magazine. J'aimerais bien qu'on suive les longs métrages, quand bien même ça n'intéressera peut-être que ceux qui ont vu le film, parce que là se joue dans ces 9-10 films qui sont sélectionnés une partie de l'identité de ce qu'est le cinéma européen aujourd'hui, des idées qu'il y a chez les jeunes cinéastes. J'aimerais bien qu'on suive ça, et puis on fera au coup par coup des rencontres avec les personnalités qui vont venir. Laurent Cantel, président du jury, ça c'est sûr qu'on s'intéressera à lui. Bertrand Blier, on lui a consacré une belle interview, on s'arrêtera peut-être là, et puis on verra si Gérard Depardieu viendra la semaine prochaine.
Espérons.
Ce serait un joli coup, mais chat chaud des crânes froides, on a déjà annoncé des personnes à premier plan, donc on n'ose pas encore trop y croire. Mais maintenant, on peut espérer, parce que Gérard Depardieu a quand même un attachement à l'Anjou très fort. Je pense que si on lui dit qu'il va arriver dans des bonnes conditions, qu'il pourra boire un coup avec ses copains sur Angers, je suis persuadé qu'il va venir.
Merci beaucoup Yves Boiteau.
Merci à vous.
D'avoir été dans le sous-marin ce soir.
C'était H. Burns avec Nowhere to Be.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Demain soir au Shabada, les Italiens de Joy Cut livreront un concert en totale découverte dès 21h. Thomas s'est saisi de l'occasion pour leur téléphoner.
Bonjour Pasco, vous êtes chanteur et guitariste dans le groupe Joy Cut. C'est un groupe pop atmosphérique originaire d'Italie. Alors vous avez sorti un troisième album intitulé Pieces of Us Were Left on the Ground, qui sonne comme une bande originale de film, avec quelques éléments dark wave et new wave. Est-ce que vous voulez toujours atteindre un but particulier dans votre carrière à ce jour, ou est-ce que vous êtes satisfait avec les choses maintenant?
Déjà, je voudrais vous remercier pour cette chance et cette opportunité, et je voudrais dire bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus. Et concernant votre question, oui, nous sommes plutôt satisfaits de notre carrière parce qu'on a fait tellement de choses. On a voyagé à travers le monde, on diffuse notre musique. En fait, on veut se rendre utile pour les gens qui écoutent notre musique. C'est notre but. C'est la raison pour laquelle on continue et on joue nos compositions sans penser au succès.
Alors il fallait pour cela rencontrer des gens et vous revenez d'une tournée nord-américaine qui s'est déroulée en octobre. Vous avez joué plus de 20 dates en un mois. Est-ce que c'était fatigant ?
Oui, absolument. En fait, on revient en tout de 157 dates en quelques mois. Parce qu'on a parcouru l'Amérique du Nord pendant 6 semaines, et puis on a de nouveau parcouru les États-Unis et le Canada pour 5 autres semaines, et l'Europe aussi. Alors, on a défendu ce nouvel album à travers le monde, on a joué tellement de dates, et on est vraiment satisfait. On a hâte de revenir en France pour rencontrer les Français et comprendre ce qu'il se passe entre notre musique et notre relation avec eux. On est vraiment impatients.
Comment étaient les gens en Amérique du Nord ? Ont-ils apprécié et compris votre musique ?
C'était
bizarre pour nous parce qu'on vient d'Italie où cette sorte de scène est vraiment dure à explorer. On chante même pas en italien. Et d'ailleurs, dans ce nouvel album, on a même voulu éviter les paroles. La majorité des morceaux est quasiment instrumentale. Du coup, on était inquiets à l'idée de voyager, voir si les gens... Si les gens me comprendraient. Mais on doit admettre que la foule américaine, les Américains étaient vraiment incroyables. Ils comprenaient nos humeurs, ils venaient systématiquement après les concerts pour parler avec nous. Ils voulaient en savoir plus sur les expériences qu'on a pu avoir en Europe. Donc c'était cool. On a booké deux fois cette tournée mondiale.
For two times, so twice, a world tour there.
Et au total, on a tourné pendant 11 semaines en Amérique. On a fait 27 états, 18 000 km, 42 concerts en 42 jours la première fois et 39 concerts en 40 jours la deuxième fois. Donc on peut en déduire qu'ils nous aiment beaucoup.
Est-ce que ce public vous manque ?
Ouais, enfin, pas tant que ça, car on va y retourner en mars pour le festival South by Southwest, et on sait qu'on va revenir. Il nous manque pas. Mais l'expérience nous manque, bien sûr. Parce que vous savez, quand vous êtes avec vos amis, votre groupe, et que vous voyagez, que vous faites l'expérience de la vie, quand vous rencontrez de nouvelles personnes tous les jours, en jouant toutes les nuits, du dimanche au dimanche, et ça finit forcément par vous manquer.
Qu'attendez-vous en général des publics qui écoutent votre musique en live ? Vous vous attendez à ce qu'ils dansent, à ce qu'ils parlent peut-être ?
C'est difficile à dire, ça dépend de la culture. Quand on a joué au Brésil, par exemple, on a joué là-bas deux fois et les gens dansaient, ils s'amusaient beaucoup. Alors que quand on a joué pour le Bling Festival, les gens étaient plus statiques. Ils dansaient, mais ils étaient très attentifs à notre set. Partout où tu vas, heureusement, les gens sont différents. Nous, on aimerait juste que les gens soient attentifs à notre contenu, qu'ils ferment les yeux et qu'ils voyagent avec notre musique.
Quels sont les endroits, les pays dans lesquels vous aimeriez jouer ?
On a joué à peu près partout, mais on n'a sûrement pas assez profité du nord de l'Angleterre. On a joué à Londres plusieurs fois, en Irlande aussi, jamais en Écosse pour le moment. Donc ouais, on est allé peu dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, Liverpool ou encore Newcastle. Et pourtant, on aime bien ce genre de scène. On aimerait bien refaire l'expérience de cette partie de l'Europe, ouais.
Dans une interview réalisée par le webzine Disposable Underground en avril, vous faites allusion aux efforts environnementaux de Joycut. Vous utilisez des matériaux recyclés pour vos CD, vous avez enregistré dans des studios qui utilisent l'énergie solaire, et votre site web est certifié comme ayant zéro impact. Quel message cherchez-vous à diffuser via ces choix ?
À un moment dans notre rapport avec la musique, on a voulu faire quelque chose de plus... On a juste essayé de lire à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a découvert qu'on était des citoyens, et qu'on ne prêtait pas assez attention à notre futur.
Every day we are, you know, paying attention to our sustainable future. So we thought, why don't we say how we are with our music? So we started to.
Alors on a commencé à chercher, you know, à travers le net, comment on pourrait avoir un peu plus d'impact. Et on a découvert qu'il y avait et qu'il y a toujours un studio à énergie solaire à Londres. On a décidé d'aller là-bas pour enregistrer notre dernier album. C'est un super endroit. Et on a commencé à comprendre qu'on pouvait faire quelque chose de plus avec notre merchandising, nos t-shirts, en utilisant du coton organique, de l'encre à l'eau. On voulait juste dire que peu importe ce que tu veux, c'est possible. On ne veut pas passer un message. On n'est pas à 100% cohérent parce que c'est très dur.
100% coherent, because it's so hard.
On n'est pas végétarien, on n'est pas vegan. C'est très difficile.
A part of us, they are vegetarians, the other part they are not. But the thing is, you know, the system we are living in,
le système dans lequel nous vivons, c'est la planète. Et on ne peut pas la consommer entièrement.
Use all the elements from the earth, from the astrobot, thinking about, you know, the traveling is going on. We have to stop and we have to think.
Parfois nous devons nous arrêter et penser à nos valeurs. On doit faire quelque chose pour la planète. Alors le petit message que nous voulons dire, c'est nous pouvons faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose. Quand vous avez notre CD entre les mains et que vous pensez à toute cette philosophie, vous pouvez penser, ok, je peux faire quelque chose pour cette planète.
Concernant votre musique, alors elle est à la fois calme et relaxante, parfois hypnotisante. Quels sont vos outils pour capter l'attention du public? Est-ce que vous utilisez seulement des mélodies ou peut-être des éléments visuels en live?
Oui, on utilise des visuels derrière nous lorsque la salle nous donne la possibilité de les projeter. Et quand nous n'avons pas la chance de pouvoir le faire, on joue seulement avec les lumières. On aime bien les silhouettes, notamment. On veut que notre musique aille également en face des gens, dans leur visage. Ce qu'on veut, c'est que le rythme tribal et acoustique de la batterie entre en défi avec nos éléments électroniques. Alors on mixe ensemble ces éléments, les mélodies aussi, bien sûr, lorsque je chante, lorsque j'utilise mon synthé, mes claviers. Et parfois, on aime être dur et puissant en utilisant beaucoup les deux batteries. C'est une bonne combinaison actuellement.
Comment trouvez-vous l'équilibre entre la musique expérimentale et la musique dite accessible? Vous avez une partie qui est plutôt pop, tandis que l'autre est plutôt ambiante. Comment est-ce que vous faites pour les mélanger?
C'est un processus naturel. Ça dépend. Lorsque tu crées quelque chose dans un studio ou chez toi, tu ne penses pas aux fonctionnalités de ce type de son. Tu ne penses pas à la réaction des gens. Parce que tu es juste dans ta bulle, en train de créer quelque chose. Et parfois, quand on collecte des sons pour faire un album, on prend des choses depuis nos archives. Il y a des sons très doux, très très intimes, et ceux-là on n'y touche pas, on les laisse comme ils sont. Et puis il y a d'autres sons qu'on expérimente en live, encore et encore et encore. La structure du morceau peut être catchy, facilement adaptable. Alors voilà, on mélange ce genre d'expérience, le studio, l'enregistrement chez soi et le live, et on collecte toutes les atmosphères. Les sons finissent par devenir un album.
Vos photos promotionnelles montrent deux personnes portant des masques d'animaux. Alors ça me rappelle un jeu vidéo intitulé Hotline Miami, est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Ça m'intéresse, vous pouvez m'en dire plus?
C'est un jeu vidéo à propos de meurtre dans lequel le héros enfile plusieurs masques d'animaux et chaque masque lui fournit un pouvoir différent. Vous auriez envie de composer des choses différentes pour des jeux vidéo ou même pour du cinéma?
C'est justement ce qu'on est actuellement en train de faire. C'est un projet privé, on va bientôt l'annoncer. Mais ouais, on est en train, en effet, de travailler sur la bande originale du trailer d'un film. On a déjà joué avec des orchestres et on ne sait pas encore si le projet sera disponible bientôt ou non.
And personally, I would like to do this job in my life. I mean, apart from being a musician on stage, I would like.
Mais en tout cas, hormis être un musicien sur scène, j'aimerais faire l'expérience de composer à travers des films, des paysages. Personnellement, c'est vraiment un but que j'aimerais atteindre.
Est-ce que vous avez pour projet de travailler avec des musiciens d'autres pays?
Ouais, absolument. On aime ce genre de code, ce qu'on appelle polygamie culturelle. C'est une de mes devises. J'adorerais réunir plusieurs philosophies et les confronter avec la mienne. Alors, pour l'instant, on ne collabore pas avec d'autres musiciens, mais on veut travailler avec d'autres personnes pour le prochain album, ouais. Je suis très proche de Benoît Perret, alias Mr. Noy. C'est un grand producteur et musicien en France, et j'aimerais faire quelque chose avec lui. On partage la scène avec lui dans quelques jours à Clermont-Ferrand. Et il y a aussi Craig Walker d'Archive. Et je rêve de faire quelque chose avec lui. Il y a beaucoup d'autres artistes qu'on rencontre encore aujourd'hui avec lesquels nous ferons des choses dans le futur. Et je pense que je peux vous dire maintenant que notre prochain album, ce sera une grande collaboration entre beaucoup de musiciens du monde entier.
Merci Pasco d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Thank you so much for having me, and thank you for your patience, for your questions. It's been a pleasure. Thanks a lot.
Joycut qui sera donc demain soir dès 21h au Shabada pour une totale découverte à 5€. En attendant, la perle de ce soir, c'est le traditionnel Bœuf Blues au T-Rock Coco. Le T-Rock, ou Radio Campus Angers, posera ses micros le 30 janvier pour la première Campus Coco session de 2015. On termine avec l'éternel Bulle Sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Dubway, l'émission Dub du jeudi soir, revenait aux racines la semaine dernière.
Et quand on parle de roots, bah, cela peut évoquer à la fois en fait une ambiance musicale, mais aussi carrément un état d'esprit, voire un mode de vie. Et en fait, la frontière entre reggae roots et dub roots est parfois difficile à matérialiser, tout simplement parce que le dub en fait est né à l'origine d'une mutation du reggae. Alors quand on parle de roots dub, on désigne avant tout les origines, c'est-à-dire les racines. Enfin, le mot est bien choisi, quoi, roots. Donc les racines du mouvement dub. Et à l'époque, les pionniers créateurs du mouvement dub sont tous issus du monde du reggae jamaïcain. Donc, t'as parlé de Lee Scratch Perry.
C'est un exemple parmi tant d'autres.
Voilà, qui a énormément expérimenté dans ce style. On a déjà parlé aussi dans d'autres émissions de King Tubby, le fameux ingénieur du son de qui tout serait parti dans le dub. On pourrait aussi citer Augustus Pablo, un de ses pionniers. Il y en a de nombreux, comme tu disais. Et voilà, bah, dans les faits, ça donne généralement un son plutôt chaud et organique. On peut d'ailleurs identifier facilement de nombreux instruments acoustiques. Et les effets d'écho et de distorsion sont bien souvent rajoutés aussi en studio. Et c'est ce qui donne vraiment l'empreinte dub. Et pour illustrer tout ça, je vous propose tous d'écouter un son.
Bah ouais, on va mettre tout ça en pratique. Hein. On va s'écouter Burn Babylon de Skyleford Walker. Sorti en 1975.
Yes, I
burn Babylon.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, juste après le générique, vous pourrez entendre Joycut avec Dominio. Et puis après, dès 20h, une rediffusion de Ta gueule Coubertin, l'émission spéciale 1994 de décembre. Nous, on se retrouve demain à 19h. Nous recevrons des dessinateurs et caricaturistes de presse pour recueillir leur regard sur les événements de la semaine passée et évoquer leur travail. Merci à Rémi pour la réalisation et à Thomas qui a co-préparé l'émission. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.